Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment a trouvé une issue favorable à la grève des enseignants du secteur public? On en parle aujourd'hui dans cette émission avec Godefray Talaboulou. Il est conseiller en genre, inclusion et nouvelle citoyenneté au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Monsieur Godefray Talaboulou, bonjour. Bien, nous allons aussi recevoir dans cette émission Jean Bosco Pouna, qui est porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants Sinecat en sigle des questions et préoccupations. Composez les 099-706-9941. Nous allons également parler dans la deuxième partie de cette émission des conditions de travail des camions, des agents, voilà, des conducteurs des camions remorques en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qu'il faut pour améliorer les conditions de travail? André Tchikoge, président de la Fédération des ouvriers des transports routiers du Congo, sera l'intervenant dans la deuxième partie de ce magazine au Capi Service. Jean-Noël Mokondo assure la mise en onde, Tati Mapougou réalise et coordonne cette émission au micro. Je dis Daniel Kachama, bienvenue à tous.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois dans cette émission Okapi Service. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation des enseignants, la grève des enseignants du secteur public. Ça fait plus de 20 ans qu'ils ont des revendications, mais ces revendications restent toujours sans réponse. C'est une situation qui affecte la qualité de l'éducation dans notre pays, selon les experts en sciences de l'éducation. Les organisations de la société civile du domaine de l'éducation rappellent que l'intérêt supérieur de l'écolier doit primer sur tout. Cet idéal est mis en péril par tous ces mouvements de grève que nous qu'on enregistre dans les secteurs de l'éducation. Alors, quelles sont les revendications des enseignants et quelles sont les réponses que le gouvernement réserve à toutes ces revendications? Qu'est-ce qui reste à faire? Voilà, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer les conditions de travail? Et voilà, toutes ces questions, nous allons les passer au panier fin avec nos invités. Le premier invité intervenant, c'est Monsieur Godefray Talaboulou, conseiller en genre, inclusion et nouvelle citoyenneté au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Monsieur Godefray Talaboulou, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous voulons savoir, la première question est de savoir quelles sont les revendications des enseignants, les revendications qui sont à la base de tous ces mouvements de grève que l'on enregistre ces derniers temps.
Merci pour votre question. Je commence par saluer vos auditeurs ainsi que mon co-invité, M. Jean Bosco Pouna, qui est de l'autre bout de la ligne. Alors, les revendications, nous en avons quand même enregistré une bonne dizaine. Certaines ont fait l'objet des assises des bivouacs où il y avait une commission paritaire entre les banques gouvernementales et le banc syndical. Et d'autres sont des nouvelles revendications qui viennent, selon que nous recevons le mémo et les différents textes que nous recevons ici au niveau de cabinet. Alors, si on peut résumer, je crois que ce qui fait qu'il y ait des perturbations aujourd'hui dans certains endroits, dans certaines écoles, c'est que les enseignants ou certains enseignants ont l'impression que les accords de bivouac n'ont pas été respectés par le gouvernement. Je dis bien ont l'impression. Cette impression peut découler peut-être du fait qu'il n'y a pas eu une communication assez conséquente de la part de syndicats qui ont signé le communiqué final et qui avaient pour...
Monsieur Godefroy, je ne sais pas si vous avez activé la main libre. Sinon, vous pouvez, si c'est le cas, vous pouvez désactiver et utiliser directement votre téléphone. Non, retournez plutôt au mode précédent parce que là, on vous entend un peu plus loin, quoi. Ah non, bon, voilà, vous allez échanger avec Tati Mapoukou, on vous relance tout à l'heure. Alors, des questions et préoccupations, nous parlons aujourd'hui des revendications des enseignants. Quelles sont ces revendications et pourquoi les mouvements de grève continuent? Jean Bosco Pouna, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants. Alors, quelles sont vos revendications que le gouvernement n'a pas encore, qui ne sont pas encore satisfaites par le gouvernement?
Bon, il faut dire que nous avons plusieurs revendications, mais la principale revendication aujourd'hui, c'est celle relative au nouveau barème salarial. Vous savez que les enseignants en République démocratique du Congo vivent dans des conditions, travaillent dans des conditions précaires. Ils sont clochardisés, ça fait de longues décennies, de longues années. Et donc, ça, c'est la principale revendication qui s'accouple à l'uniformisation du barème. On ne peut pas comprendre que l'enseignant qui est à Kinshasa puisse toucher X salaire, celui qui est dans les chefs-lieux un autre montant, et celui qui est dans les territoires un troisième montant qui est très précaire. Donc nous pensons qu'il faut absolument aujourd'hui que nous ayons un nouveau barème salarial, mais uniformisé, c'est-à-dire un barème qui va répondre aux attentes des enseignants à travers la République. Mais il y a également la revendication de nouvelles unités, des enseignants qui travaillent pendant beaucoup d'années comme des véritables bénévoles. Nous pensons que si les enseignants sont gérés de cette manière-là, nous ne pouvons jamais alors parler de la qualité de l'enseignement, sans compter la réclamation des inspecteurs. Vous savez que le gouvernement a fait un effort pour payer les inspecteurs de Kinshasa, mais tous les inspecteurs dans les provinces restent clochardisés. Or, l'inspecteur, c'est celui qui assure la formation, les contrôles et l'évaluation. Dès lors qu'il n'est pas mis dans les conditions normales de travail, eh bien, on ne peut pas prétendre à la qualité de l'enseignement. Ça, ce sont les principales revendications. Barème qui doit être uniformisé, d'abord un nouveau barème, parce qu'aujourd'hui, l'enseignant, ce qu'il touche, ne lui permet pas de pouvoir nouer les deux bouts du mois. Mmh. Vous comprenez que c'est terrible, il doit payer les transports dans les $100 qu'on lui donne, et ceux qui sont dans les territoires ont moins de 100. Il doit en même temps scolariser ses enfants au secondaire et à l'université. C'est un véritable casse-tête. Aujourd'hui, la gratuité aux primaires est presque sabotée dans les écoles conventionnées catholiques. Si vous allez à la Gombe, à Boboto, pour ne pas les citer, à Bosangani, eh bien, les parents ont repris et la ministre regarde sous un œil complaisant. Donc, vous comprenez que la situation est tragique. Voilà pourquoi les enseignants sont allés en grève pour revendiquer auprès de leur employeur, qui est l'État congolais, le seul employeur. Mmh. Et voilà.
Jean Bosco Pouna.
La situation n'est pas bonne.
On a appris
et
que...
je vais ajouter pour terminer, il y a la question relative à la prime de gratuité. Cette prime est donnée de quelle manière? Toujours en discriminant un grand nombre d'enseignants. Donc, dans ces conditions-là, il est difficile de faire le travail.
Oui, Jean Bosco Pouna, on a appris que vous avez demandé une augmentation de salaire de $500 et le gouvernement ne vous a donné que 45 000 francs. Est-ce que vous confirmez cela?
Mais bien sûr, la revendication des enseignants, eh bien, nous avons présenté au gouvernement notre proposition de politique salariale. Et dans cette proposition, vous avez l'enseignant moyen qui devrait toucher un minimum de $500. Mais le gouvernement, à la place, a donné 50 000 francs congolais à tempérament, d'ailleurs, a payé à tempérament, c'est-à-dire en août 2024, il a payé 50 000 francs, prenons cette année, donc 50 000 francs congolais, et 50 autres 1 000 francs congolais en 2025, ce qui choque les enseignants, parce que pour les enseignants, pour nous, eh bien, en 2025, Nous pensons qu'au niveau du budget, il faut absolument que les salaires des enseignants soient améliorés, et donc de l'ordre de $500. C'est le minimum que nous demandons, étant donné que le gouvernement est confronté à plusieurs défis. Voilà la demande des enseignants. Malheureusement, c'est 50 000 francs. Et quand vous prenez les banques qui défalquent presque tout, tout à l'heure on vient de recevoir des réclamations des enseignants avec la banque Access, qui défalque 13 000 francs congolais de l'enveloppe de chaque enseignant. Mais c'est compliqué. Donc l'enseignant ne sait pas tenir et il ne sait pas reprendre le cours aujourd'hui dans ces conditions-là.
Et pourquoi la banque retient ces montants-là?
Bon, la banque dit que allègue que l'enseignant qui n'a pas 200, qui n'a pas plus de 500 000 dans son compte, ne peut pas avoir un chèque pour retirer son dû. Et donc, il faut avoir une carte bancaire. Et la carte bancaire coûte plus ou moins $5, mais là-dedans, on doit défalquer des frais. Donc, c'est vraiment compliqué. Les enseignants qui vont aujourd'hui toucher à la banque Access ne peuvent plus parce qu'ils n'ont pas plus de 500 000 francs. Ils sont, les enseignants, eux tous, ont moins de 500 000 francs congolais. Ça veut dire que les banques veulent vendre leurs cartes et donc, sur le dos des enseignants, il est important que Madame la ministre puisse intervenir parce que c'est eux qui logent le compte des enseignants dans ces histoires-là et aujourd'hui ça complique encore la situation sur le terrain. Pour revenir à nos revendications, les enseignants veulent toucher un minimum de $500 pour permettre qu'ils puissent avoir un transport chaque matin pour aller au travail, nourrir tant soit peu sa famille, scolariser les enfants. C'est toujours difficile, mais c'est le minimum qui est exigé. Et tant que cela ne sera pas donné, la frustration va demeurer.
Aujourd'hui, quel est le salaire à combien touche un enseignant moyen aujourd'hui?
Bon, mais est-ce qu'il faut toujours que nous rappelions cela? Parce que, bon, vous savez, les gens qui ont formé toute cette République, l'enseignant a formé les ministres, il a formé les députés, il a formé les journalistes. Mais c'est quand même affreux que nous revenions sur ce que touche l'enseignant. L'enseignant qui est à Kasangou, lui, touche 280 000 francs congolais. Donc, je prends parce que c'est dans les territoires que nous avons un grand nombre d'enseignants. Et donc, quand vous donnez 280 000 francs congolais, c'est compliqué en termes de dollars. Donc, vous allez bien vous rendre compte que l'enseignant qui est dans les territoires, ils ont plus ou moins $80. Et celui qui est au niveau des chefs-lieux, je vais parler des Lubumbashi ou encore des Matadi, ils ont plus ou moins $101. Là, avec les 50 000 francs ajoutés. Et celui qui est à Kinshasa, il a plus ou moins $150. Mais prenez un peu la perte du pouvoir d'achat. Tout ce que nous remarquons, la fluctuation de la monnaie, eh bien, ça ne permet pas à cet enseignant de faire véritablement le travail sur le terrain. À moins que ça soit une pure et simple formalité. Mais si c'est pour enseigner et donner un contenu aux enfants que nous encadrons, je crois qu'à la limite, c'est insupportable et c'est même infra-humain.
Bien, Monsieur Godefroy Talaboulou, je rappelle que vous êtes le conseiller en genre, inclusion et nouvelle citoyenneté au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Vous avez suivi les revendications des enseignants. Quelle est la réponse que le gouvernement réserve à ces revendications?
Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. J'espère que vous m'entendez mieux maintenant.
Oui, ça va mieux maintenant. C'est bon.
Oui. Vous savez, et les enseignants, qui d'ailleurs sont des agents de l'État, et les gouvernements, nous sommes tous dans un même bateau. Et l'éducation, comme la sécurité, ce sont des domaines qui touchent à la vie de la nation. Là, nous parlons de nation, et tout le monde est mis devant ses responsabilités en tant qu'agent de l'État pour veiller à ce que l'avenir de cette nation soit ce que nous aimerions. Il s'agit des enfants, il s'agit de préparer la relève. Donc quand nous traitons du sujet, il est demandé que nous mettons devant la responsabilité individuelle et collective, parce qu'il s'agit d'abord de notre pays. Demain, ce sont ces enfants qui vont prendre la relève. Alors, depuis un certain temps, le gouvernement, en jouant le rôle de l'employeur, collabore avec les agents de l'État qui sont les enseignants, pour s'assurer que l'éducation de qualité puisse être donnée à nos enfants. Il y a un dialogue permanent qui a été établi à travers les syndicats parce que ensemble on a trouvé comme option de résoudre nos problèmes ou de trouver des solutions à nos problèmes dans une approche partenariale. C'est comme ça que les enseignants se sont constitués en syndicats, et à chaque moment où il y a une crise, où il y a une revendication, les deux parties, le gouvernement et les syndicats, se retrouvent en commission paritaire, évaluent les revendications et proposent une feuille de route pour trouver des solutions. Je rappelle, nous sommes tous, et les enseignants et le gouvernement, dans un même bateau, celui de donner l'éducation à nos enfants. C'est un droit inaliénable. Et pour tout responsable, l'enfant constitue la relève de demain. Et c'est cet exercice qui a toujours été fait. Pour les cas échéants, ça a été fait en mars, au mois de mars 2024. Les enseignants se sont retrouvés, le syndicat avec le gouvernement, ils ont dégagé des actions et des engagements qui devraient être réalisés. Nous sommes arrivés au mois de juillet. Nous avons organisé des assises à Bibois pour évaluer les niveaux d'exécution de ces engagements-là. Donc c'est ce feuille de route décidé de commun accord qui constitue la boussole pour que nous puissions trouver la solution et au problème des enseignants et au problème des enfants. Parce que l'enseignant reste quand même la pièce, même pas quand même, et la pièce centrale de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Parce que c'est lui qui est en contact avec les enfants. La feuille de route a été signée, nous avons évalué, et je puis vous dire, après avoir évalué ce qui était demandé par les enseignants en mars 2024, le gouvernement a dit que c'était possible d'aller un peu plus loin, donner même plus que ce qui a été demandé en mars 2024. Les enseignants demandaient qu'on mécanise la prime de la gratuité, qu'on augmente l'enveloppe salariale des enseignants à telle hauteur, le gouvernement est allé au-delà de ça, mais seulement ensemble, ils se sont dit, nous allons payer une tranche avant la rentrée scolaire et une autre tranche dès l'année budgétaire prochaine, donc dès le premier trimestre de janvier 2025. Ça a été accepté parce qu'il y avait des contraintes budgétaires qui ne dépendent pas du ministère, de l'EPST, mais c'est de tout le gouvernement dans l'ensemble. Et ça, il fallait dialoguer avec les enseignants pour comprendre cela. Mais je dois aussi dire que pendant ces assises, alors que nous évaluons ce qui était signé en mars 2024, il y a eu une revendication qui est sortie. Nous voulons 500 dollars ou rien. Nous avons dit c'est bien. En fait, 500 dollars, c'est même plus, c'est moins. Les enseignants peuvent aller au-delà. Mais en responsable, il faut toujours qu'on voie, nous sommes au mois d'août, quel a été le budget de l'État décidé depuis janvier jusqu'en décembre 2024? Qu'est-ce qui nous a été alloué en tant que secteur? On a appelé les ministères de budget. Regardons ce qui nous reste. Si aujourd'hui nous donnions 500 dollars à chaque enseignant, il y a 698 171 enseignants. Vous multipliez ça fois 500 dollars. Ça nous fait une enveloppe salariale mensuelle de 12 000 milliards de francs congolais par mois. Alors que le budget nous renseigne que l'enveloppe salariale mensuelle de tous les fonctionnaires de la République, le ministère de l'Agriculture, les enseignants, les militaires, la police, les médecins, tout ce qu'on paye, l'enveloppe salariale par mois, c'est 9 000 milliards de francs congolais. Donc si à Bibois, en août, on accédait à une telle revendication, un, ça serait de la démagogie, parce que l'État sera dans une incapacité totale de payer 12 000 milliards aux enseignants. C'est comme ça qu'on a dit ensemble, entre les syndicats et les représentants des enseignants et nous, c'est une bonne revendication. Vous méritez même plus, comme l'a dit M. Jean Bosco, c'est vous qui formez la République, c'est vous qui formez les députés, c'est vous qui nous avez appris à lire, à compter. Mais on doit ensemble travailler pour qu'on dégage d'abord, un, les économies à l'intérieur de ce qui nous a été alloué. C'est-à-dire que nous allons revoir la gestion efficace et efficiente au sein du ministère, assainir les fichiers, voir s'il y a des doublons, voir s'il y a des fictifs, pour que l'argent qui sera dégagé, ça soit déjà nos économies en interne. Mais aussi faire les plaidoyers auprès de l'autorité budgétaire qui est le Parlement, aussi auprès des autres ministères, parce que nous nous proposons, mais c'est le budget qui dit oui, c'est disponible, et les finances qui dit, compte tenu des défis, je pense que nous pouvons le faire. Donc nous allons travailler en synergie en tant qu'équipe gouvernementale avec vous les syndicats, pour qu'on voie combien, jusqu'à combien un enseignant peut avoir dans les limites des ressources de notre pays, qui a aussi d'autres défis à faire face pour assurer l'équilibre social et la cohésion nationale. Je crois que c'est sur cette note-là qu'on a fini les assises de Bibois en août, et les enseignants syndicats devraient rentrer, expliquer la dynamique des échanges, parce qu'après, une commission permanente de suivi de ce communiqué devrait être mise en place, et ce communiqué, cette commission travaillera avec l'ECOFIN au Parlement pour s'assurer que l'enveloppe conséquente pour les budgets 2025 est bien allouée aux enseignants.
Donc si je comprends bien, le gouvernement est d'accord, on peut donner ces $500 ou plus, mais le budget actuel ne le permet pas.
Oh, le gouvernement fait de l'enseignant sa priorité. Les chefs de l'État, si vous l'avez encore suivi, lors du 6e conseil des ministres, a demandé au ministre de la fonction publique et au ministre de l'éducation nationale, des finances, tout le monde, de voir en quelle mesure, dans quelle mesure on peut sécuriser la fonction enseignante, on peut revaloriser la fonction enseignante, parce qu'il n'y a pas de gratuité sans qualité. Et l'objectif du chef de l'État, c'est l'investissement en capital humain. Et l'enseignant est clé. Donc si aujourd'hui, nous sommes en mesure de payer $1000 à l'enseignant, pourquoi pas le faire? Mais ensemble, nous devons voir qu'est-ce que nous avons dans nos casseroles, et nous les voyons ensemble avec les enseignants, parce que nous tous, nous sommes des responsables gestionnaires de cette éducation dont l'enfant doit bénéficier. Donc c'est un travail, c'est comme ça qu'il y a ce dialogue permanent que la ministre d'État, ministre Raissa Malou, a mis en place avec tous les syndicats pour qu'on réfléchisse ensemble. Et là, vous l'avez vu hier, s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale, justement dans le cadre de ce même plaidoyer. Vous l'avez vu hier, à côté des finances et budget et la fonction publique, pour mettre en place cette commission permanente qui va réfléchir avec les enseignants pour trouver les réponses à nos différentes revendications. Je reviens pour conclure, nous sommes tous dans un même bateau. Et ce bateau, c'est amener notre système éducatif à former les enfants capables de faire face aux défis de l'heure et à prendre relève de notre chère nation.
Bien, nous parlons aujourd'hui des revendications des enseignants. Comment trouver une issue favorable à cela? Vous avez des questions et préoccupations? Le standard est déjà ouvert. Composez les 099 706 99 41. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Connaissez-vous la monkeypox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de monkeypox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la monkeypox s'est faite à travers des lésions, voire plaies de liquide organique comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de monkeypox et le rapport sexuel avec une personne malade de monkeypox. Pour nous protéger contre la monkeypox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouver morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de monkeypox et éviter tout contact avec les objets souillés par des malades de monkeypox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151 ou adressez-vous directement à un prestataire de santé ou à un agent de santé communautaire.
Bien, nous parlons aujourd'hui des revendications des enseignants de la République. Comment trouver de solutions à toutes ces revendications? On va accueillir bienvenue Kikala qui nous appelle des Kikuit. Bonjour.
Je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Bien. Comment satisfaire les revendications des enseignants? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Oui, à mon sens, je pense que la revendication des enseignants mérite bien d'être là, parce que au-delà d'être enseignants, ces gens-là sont aussi des pères de famille, sont des parents. L'argent qu'on paye aux enseignants, je crois, ça ne peut pas l'aider à couvrir les deux bouts du mois. Mais aujourd'hui, nous constatons comme si l'État s'est délaissé de la carrière enseignante ou du métier enseignant. Ils sont à grève, personne ne s'occupe d'eux. Et puis, comme disent les Quinois, ils ont mal à montrer. Donc, maintenant, déjà qu'on soit à Bongo, ils vont reprendre la clé. En réalité, si nous voulons que notre pays avance, si nous voulons que notre pays se développe, on doit revoir notre système éducatif. Le système éducatif, ce n'est pas seulement les documents, c'est pas seulement les bâtiments. On doit voir aussi l'enseignant qui est une pièce maîtresse pour assurer une bonne éducation. Aujourd'hui, je crois que les jeunes que nous sommes, les personnes sérieuses, ne peuvent pas accepter d'être enseignants parce que le métier d'enseignant devient comme une moquerie. Donc les gens qui sont laissés pour compte. Si au moins nos autorités peuvent jeter un regard là-dessus pour trouver tant soit peu une solution au problème des enseignants, parce que les élèves sont en errance. ils ne savent pas rentrer à l'école. C'est aussi des colons que nous déplorons aujourd'hui. Voilà un peu.
Merci, bienvenue à Kikala, depuis Kikwit. Comment satisfaire les revendications des enseignants? Jean Bosco Puna, qu'est-ce que vous pouvez, votre réaction par rapport à ce que vient de dire bienvenue Kikala?
Oui, mais je crois que bienvenue a raison, et donc l'enseignant est devenu la risée de sa société, et je crois que le gouvernement a tout intérêt à pouvoir remanier cette manière de voir les choses. Je salue le monsieur Godefroy, mais je dis en même temps que lorsqu'il parle de la responsabilité des uns et des autres, je crois que pour les enseignants, nous avons toujours été responsables et patriotes. Nous avons travaillé pendant de longues décennies sans que nous ayons les très bonnes conditions de vie et même de travail. Et lorsque le monsieur parle du dialogue
permanent.
Mais ce dialogue, oui, ce dialogue qui est permanent, mais ce dialogue n'est pas toujours responsable. Est-ce que M. Godefroy peut me dire le dernier dialogue, la dernière commission paritaire, combien de personnes ont participé à ce dialogue et qu'est-ce que ça a coûté? Il faut partir de là pour crédibiliser un dialogue. Parce que si vous ne savez pas combien participent, quelle est la hauteur des participants au niveau du banc syndical. Ça s'appelle commission paritaire, mais qu'il nous donne des éléments pour dire effectivement que c'était une commission paritaire. Donc je crois que dès lors que le gouvernement va continuer avec des dialogues de ce genre-là, ça sera improductif. Et qui sont invités à ces dialogues-là? Ça, c'est une autre paire de manches. Alors l'autre question qui engage la responsabilité du gouvernement, ce sont les accords qui sont signés. Lorsque ces accords sont signés, est-ce qu'ils sont respectés? Parce que les derniers accords ici qui parlent de 50 000 francs, mais avant, il y a des accords qui ont été signés qui donnaient plus à l'agent de l'État. Mais ces accords ont été battus en brèche pour recommencer et parler de 50 000 francs. Et donc je crois que de ce côté-là, le gouvernement a sa part de responsabilité, la plus grosse part. Il faut que cela change. Maintenant qu'il y a grogne, maintenant que les enseignants ne savent pas travailler, qu'est-ce que le gouvernement propose? Lorsque nous parlons des fichiers qu'on doit assainir, nous avons près de 698 000 enseignants. Mais qui recrute tous ces enseignants qu'on remplit dans les bureaux gestionnaires? C'est toujours le gouvernement. Quand on arrive aux affaires, on amène ses frères, ses partisans, et ça gonfle, et ça met l'État dans la difficulté de pouvoir honorer ses engagements. Donc je crois que l'État a une grande part de responsabilité. Au lieu de continuer à se disculper, il faut trouver des solutions. Et nous, au niveau de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, nous avons fait la proposition au gouvernement pour qu'il convoque les assises sur la politique salariale. Ça va résoudre les problèmes des médecins qui entrent en danse, les infirmiers qui vont également emboîter les pas. En ce moment-là, si nous avons les assises sur la politique salariale, et ça relève du gouvernement, en ce moment-là, on va discuter de manière définitive et durable. Mais les faire tel qu'on les fait, je crois que les médecins vont aller une fois de plus à Bibwa, mais je crois que cette manière de faire n'est pas bonne. Et nous, à notre niveau, nous interpellons aussi le Parlement. Il est vrai qu'il y a des députés qui défendent déjà la cause des enseignants. Pour ne pas les citer, nous avons suivi l'honorable Godin Poyi. En tout cas, nous les félicitons. Mais il faut que le président de l'Assemblée nationale prenne les taureaux par les cornes. La situation va de mal en pis. L'année scolaire, nous avons déjà perdu 40 jours. Et donc, en début novembre, c'est déjà la première période qui s'achève. Donc même si on contraint les enseignants à travailler, mais techniquement ce n'est plus possible, parce qu'il n'y a plus de calendrier scolaire. Je crois que c'est une question de responsabilité, et le gouvernement, et le parlement, et nous enseignants, syndicats, nous sommes dans les mêmes bateaux, il a raison de le dire, mais maintenant il faudrait que nous puissions donner les vraies solutions au problème de l'éducation, parce que c'est l'éducation qui va devoir relever ces pays.
Bien, nous parlons aujourd'hui des revendications des enseignants. Trésor Kayeya, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour M. Jody et bonjour aussi aux invités.
Quelle est votre question?
Ma préoccupation est juste celle de savoir, parce que je me rends compte qu'il y a au moins les pains tirés de gauche à droite. il y a l'État, le gouvernement, il y a aussi les syndicalistes. Je mets d'abord les enseignants un peu de côté. Pourquoi? Parce que à chaque année presque, il y a des accords à Bibwa, il y a des accords à Mbouela, et ainsi de suite. Et il y a même des notes circulaires provenant du ministère de l'enseignement, soit disant que non, tous ceux qui se sont entendus là ont été... ils sont d'accord, le gouvernement doit faire ceci, mais à chaque année, il y a toujours des grèves, il y a toujours des grèves. Moi qui vous parle, j'étais nouvelle unité, parce que j'ai déjà quitté. Depuis 2018 jusqu'en 2024 aussi, j'étais obligé d'abandonner. Nous avons eu à enseigner gratuitement pendant des années et des années de nouvelles unités, non payées, ainsi de suite. Et parfois, ce sont même des syndicalistes là qui sensibilise encore les enseignants pour qu'ils puissent reprendre les activités. Et après, on ne voit rien, il n'y a aucune réaction. Maintenant, moi, je me pose des questions. Maintenant, quand les syndicalistes acceptaient ou mobilisaient les enseignants pour reprendre les années antérieures, les cours, les activités scolaires, c'était par rapport à quelle solution que le gouvernement, à quel problème le gouvernement avait résolu. Parce que moi, je suis sûr et certain que les syndicalistes là vont encore faire appel aux enseignants pour qu'ils puissent reprendre et le gouvernement ne fera toujours rien.
Bien, merci.
C'était au moins ça.
Oui, c'est ça votre votre point de vue. Je vais donner la parole à Monsieur Godefray Talaboulou. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le point que vaut madame, mais aussi avant elle, monsieur Jean Bosco, en fait, nous disons la même chose. Nous disons la même chose, comme je ne cesse de le dire. Nous sommes dans un même bateau. Et en termes de solutions, nous trouvons les solutions ensemble. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, après les assises de Bibwa du mois d'août, il y a eu quelques mouvements de réfractaires. Nous les avons encore rappelés pour continuer le dialogue. Vous avez vu un arrêté mettant en place une commission permanente de suivi des résolutions de Bibwa. Et nous continuons, et la ministre d'État continue à recevoir les syndicats et les représentants des enseignants, les parents, pour que chacun vienne apporter des solutions. Et c'est avec ces solutions qu'elle amène auprès de partenaires gouvernementaux et auprès du Parlement au moment où nous discutons du budget national pour 2025. Ça c'est la meilleure de l'approche qui puisse exister parce que, comme je l'ai dit, et les enseignants et l'État, nous tous, nous sommes au service de l'éducation. Maintenant, il faut aussi noter que chaque décision ou chaque solution qui arrivera, les ressentis prendra du temps. Parce que ce n'est pas par un coup de baguette magique. Par exemple, si nous demandons d'augmenter l'enveloppe salariale, nous allons faire le plaidoyer. La décision peut être prise vendredi, mais il faut tout un processus, approcher les parlements, travailler avec les COFINS, et l'autorité budgétaire doit adopter, et ainsi de suite. Peut-être que les conséquences de ce plaidoyer ou de cette démarche collective se pourra se sentir au prochain trimestre ou en 2025. Mais le plus important, c'est de savoir que entre deux partenaires, nous marchons ensemble vers la recherche des solutions durables. C'est ce que je voudrais dire à madame Nouvelle Unité, et je déplore son cas. Dans un système normal, on ne devrait pas avoir une nouvelle unité. Parce qu'un enseignant qui travaille mérite son salaire. Moi, je suis fils d'un enseignant, je sais de quoi il s'agit. Alors, nous sommes là aujourd'hui, justement pour trouver une approche qui nous permette à éviter cela. Et on va plus aller dans des revendications ou dans des promesses démagogiques, dans les engagements démagogiques. C'est comme ça que nous disons, si on travaille ensemble, on est mis devant nos responsabilités. Qu'est-ce que l'État a maintenant en termes de ressources propres? Et comment l'État redistribue ces ressources-là? Et quelle est la part des enseignants? Cette démarche est faite ensemble avec les enseignants. Tout le monde deviendra beaucoup plus responsable dans le positionnement des revendications. En tout cas, c'est cela même le tout premier principe directeur de la gouvernance de Mme Raïssa, comme vous qui l'avez déjà lu son programme quinquennal. Elle tient à ça. Rien ne se fera dans l'opacité. Tout ce qui concerne le personnel enseignant, l'enseignant doit être au centre de cela. Mais être au centre veut dire quoi? Nous devons approcher les budgets, nous devons approcher les finances pour dire, voici les réalités de l'enseignement. Qu'est-ce que vous nous dites? Et le gouvernement, ensemble avec les syndicats, nous trouvons des solutions. Je crois que ça commence déjà à porter fruit. Aujourd'hui, nous disons, nous avons vu depuis le 6 octobre, beaucoup de syndicats qui sont entrés dans cette dynamique, appeler leurs collègues syndiqués où il y avait des perturbations à reprendre les cours. Hier, nous avons fait un petit monitoring et nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a pratiquement toutes les provinces où les cours ont déjà repris. Nous sommes juste, il y a 3 ou 4 provinces où il y a encore des couacs et les raisons sont variables. L'une des raisons, peut-être, le paiement en retard de la part d'une banque payeuse, et ce qui fait que l'enseignant n'a pas touché son salaire, il n'est pas motivé à reprendre l'école. Et d'autres, c'est l'insécurité, comme dans les provinces du Nord Kivu, où à cause d'insécurité, l'enseignant ne sait pas rentrer à l'école. Mais la dynamique est lancée, et je crois qu'il faut donner du temps et aussi, surtout, apporter une approche constructive pour qu'ensemble, une fois pour toutes, qu'on trouve la solution à cette question. Alors, je suis aussi d'accord avec M. Jean Bosco Puna, qui parle de la politique salariale. Je crois que c'est l'une des priorités du vice-premier ministre de la fonction publique, parce qu'il appartient à la fonction publique de prendre des leads sur la politique salariale, où nous avons peut-être un SMIC minimum pour les fonctionnaires. Et nous sommes aussi dans cette dynamique-là. Ça va nous éviter tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, et y compris même des assises où les gens commencent à faire un peu de fonds de commerce, et ça n'aide pas les services publics que nous servons. Merci.
Bien, nous parlons des revendications des enseignants. Comment trouver une issue favorable face à toutes ces revendications? Et c'est pas aujourd'hui que c'est là à commencer. On va accueillir un autre auditeur, Elvis Kaoa, depuis Kinshasa. Bonjour Elvis.
Bonjour Monsieur Jedi.
Quelle est votre réaction?
Oui, je partage la même envie avec celui qui m'a précédé sur ce point. Surtout que les enseignants, peut-être, ils sont peut-être marchandés, ils ont accepté de discuter sur certains points qui a été à Biboua. Parce que après cette rencontre, j'étais à Biboua, j'ai suivi maman Cécile Tiombo sur mon antenne là, sur les revendications qu'ils ont revendiquées. Le président, je vais vous dire que la réalité est sur le terrain. Je vais vous dire que la revendication des enseignants peut être, on peut voir que ce n'est pas, mais pour ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des petits frères comme M. Poutine, ils sont en train de voir la réalité. Jusqu'aujourd'hui, peut-être, ça se fait toujours sentir. Ok? Hier, le lundi, je peux me rappeler, il y a un enfant de mon cousin qui étudie à Lemba. Il me disait quoi? Il me disait, Yaya, les enseignants sont toujours en grève comment? Ils entrent dans une certaine classe, l'enseignant qui écrit justement la zoologie au tableau, peut-être qu'il fait une copie au tableau, l'enseignant sort. C'est à 12 heures, les enfants sortent. Vraiment, ma réaction, peut-être que je voulais parler à M. Bosco, peut-être que je l'ai compris sur les expressions qu'il a. Il a dit sur la sortie du budget du gouvernement, il faut seulement revoir. Peut-être, lorsque nous parlons peut-être de 50 millions, on a dit d'ajouter aux enseignants, mais c'est ce que je dis, peut-être que 50 millions, c'est moins de 20 dollars. Peut-être, ça peut être 18 dollars ou 17 dollars. Si seulement on avait, vraiment, le gouvernement avait la volonté d'aider les enseignants, sur 500 dollars d'enseignants réclamés, on pourrait même arriver à 200, 150 dollars. Comme notre invité aussi qui vient de parler, il a expliqué qu'il y a des enseignants qui ne sont plus les 280 dollars, moins de 100 dollars. Alors, dire peut-être que les choses vont bien, peut-être dans certaines écoles, mais moi je vous dis, il y a des preuves, il y a des écoles ici qui n'ont jusqu'à présent, ne fonctionnent pas, ici à 17 ans. Où les élèves arrivent à l'école, ils ont une assistance de classe, ils n'étudient pas, ils sont assis. Ça, c'est la grève la plus cruelle que la grève qui a été en train de faire. Je ne sais pas si vous me comprenez, monsieur.
Oui, d'accord. Je comprends parfaitement bien. Merci d'avoir appelé M. Jean Bosco Puna. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelle réponse vous pouvez donner à cet auditeur?
Oui, mais l'auditeur a raison. Et en même temps, je dis, le gouvernement ne doit pas se féliciter. Comme je viens de suivre M. Godefroy, je ne sais pas si je prononce bien son prénom. Eh bien, il dit qu'il y a des écoles qui ont repris. Mais vous savez que la pédagogie, c'est une nourriture cachée. Et donc, pour que l'enseignant puisse faire bien faire le travail, il doit avoir de la bonne volonté. Les enfants peuvent être enfermés dans des salles de classe sans recevoir de connaissances, vous comprenez. Nous n'avons pas besoin de cette école-là, de ce type d'école-là. Nous avons déjà dit que techniquement, cette année pose problème parce que ça fait déjà plus de 40 jours où les enfants ne sont pas scolarisés, n'étudient pas. Alors, je reviens là où l'on parle de quoi, de la commission paritaire, on a mis une commission permanente. Je crois que tout ça ne donne pas de réponse au problème des enseignants, parce que c'est toujours 50 000 francs congolais, c'est 16 dollars, s'il vous plaît. Lorsqu'on va dans une commission paritaire, on discute avec les porteurs des revendications. Aujourd'hui, tous les syndicats que Maman Raïssa rencontre, ce sont des syndicats qui ont appelé à la reprise des cours. Vous comprenez que ce sont des erreurs graves que nos politiques commettent. Nous ne pouvons pas comprendre que jusqu'au 40e jour, qu'on continue à se dire, bon, nous avons tel syndicat, tel, au moment où ce syndicat n'avait jamais appelé à la grève. Donc je crois qu'il faut absolument que cela change. Mais nous disons également que la ministre de l'Éducation n'est qu'un maillon de la chaîne.
Oui.
Les vraies réponses des enseignants
Jean
ne
Bosco
peuvent
Puna.
Trouver des solutions qu'au niveau du gouvernement.
Jean Bosco
oui,
Puna,
je
reviens par rapport à cette question des syndicats. Finalement, il y a combien de syndicats qui représentent les enseignants, lesquels sont crédibles, lesquels ne le sont pas?
Il n'y a pas un problème de crédibilité. Lorsque vous invitez des syndicats, vous signez des accords avec eux, ils acceptent. Et quand ils vont sur terrain, ils sont incapables de restituer. Je crois qu'il faut quand même revoir les choses. Les syndicats fonctionnent sur base des principes. Et les principes, ce sont des principes de collaboration avec le gouvernement. Si au niveau du gouvernement, les cris des enseignants n'est pas compris, c'est-à-dire nous revendiquons 100% et le gouvernement nous donne 1%, mais on ne prend pas. Mais vous avez tous ces syndicalistes et amis du gouvernement, même lorsque le gouvernement donne 2%, ils prennent pourvu que eux se retrouvent. C'est ça la question que nous avons. Mais pourquoi l'on doit mettre de côté les vrais syndicats porteurs de revendications et prétendre qu'on va résoudre les problèmes? Parce que ces syndicalistes-là ne sont pas capables d'aller restituer, être entendus, être écoutés. Madame commet l'erreur qu'a commise le ministre Tony Mwaba, discuter avec une intersyndicale qui n'est pas crédible devant les enseignants, parce qu'un syndicat est recruté par les enseignants et non par le gouvernement. Nous portons les aspirations des enseignants et il n'y a que les enseignants qui sont nos premiers, je dirais, patrons. Donc voilà un peu le problème tel qu'il se présente. Mmh. Nous pensons à notre point de vue. Il est important qu'aujourd'hui qu'on puisse changer de méthode. Ce qu'on a prétendu mettre en place ne marche pas. Ces différentes commissions paritaires sont contre-productives. Il faut maintenant aller vers d'autres paradigmes qui puissent permettre que les choses changent. Il n'y a pas rentré, c'est vrai qu'il y a quelques écoles, notamment les écoles secondaires, qui sont rentrées vers la prise en charge des enseignants par les parents, ce qui est déplorable. Il y a quelques écoles primaires catholiques, nous les citons, qui sont rentrées encore vers les pauvres parents au moment où le président de la République a instauré la gratuité de l'enseignement. Malheureusement, ces écoles ne sont pas inquiétées. Je crois qu'il faut aller vers des solutions durables. Et les solutions durables, c'est le budget de l'État. Nous avons 18 milliards de dollars, plus ou moins, de budget. Et il faut absolument que le gouvernement débloque 30% à accorder à l'éducation. Et c'est prioritaire et c'est urgent. En ce moment-là, ça va permettre un retour serein. Pas dire que les enseignants sont là, ils ont repris, au moment où nous tous, nous savons qu'il y a frustration. Et puis cette question-là d'appeler les syndicats seulement lorsqu'il y a grogne, seulement lorsqu'il y a revendication, je crois que ce sont des méthodes qu'il faut décourager. Le gouvernement doit rassurer les enseignants qu'ils peuvent toucher un minimum. Il y a un auditeur qui a parlé de si les enseignants ont réclamé 500 dollars, mais qu'est-ce que le gouvernement a proposé? Il vient avec 16 dollars et ce syndicat qui était à Bibwa ont accepté cela. Je crois qu'ils ne rendent pas service au gouvernement.
Bien, Jean Bosco Puna, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants, Sénécat, merci, bonne journée et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.
Bien, on va conclure avec vous, Monsieur Godefray Talaboulou, conseiller en charge en genre, inclusion et nouvelle citoyenneté au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les 30% seront pris en compte dans le prochain budget, voilà, par rapport aux revendications des enseignants?
Oh, je voudrais, avant de répondre à la question, dire un mot, et c'est une interpellation en fait, parce que vous avez parlé des syndicats. Vous savez, c'est une autre paire de manches, et M. Jean Bosco l'a effleuré. On sent déjà que, et Madame qui a parlé aussi un peu plus avant, a posé les problèmes des syndicats. Mais pour nous, il s'agit du dialogue. Ça fait 20 ans que cette situation perdure. Ça fait 20 ans que et les syndicats et le gouvernement signent des accords et qui sont parfois, et ils le savent en amont, que ça ne sera pas possible de les mettre en œuvre. Depuis l'avènement du chef de l'État et un peu plus récemment avec la ministre d'État, Madame Raissa, nous voulons être responsables devant les engagements des uns des autres. La responsabilité veut dire quoi? Tout le monde doit, dans la transparence, connaître comment fonctionne l'État. L'État fonctionne avec un budget. Tout le monde doit être au courant combien revient ce budget. Vous m'avez posé la question, quelle est la part de l'éducation pour ces budgets? Et quand un budget, la loi est votée, en septembre comme maintenant, les faits commencent toute l'année qui suit, c'est en fonction de ces allocations budgétaires. Et c'est ce qui s'est fait au mois de mars. Pour la toute première fois, les syndicats et le banc gouvernemental se sont mis d'accord sur la base d'un budget réaliste qui était devant leurs yeux. Qu'est-ce qui a été alloué pour les enseignants en 2024? Ils ont vu le montant. Avec ce montant, ça représente quelle augmentation salariale? Ils ont dégagé ce montant-là de 50 000 francs. En réalité, c'était même 20 000 francs. C'est Madame Raissa qui a poussé pour que ça aille au niveau de 50 000 en faisant des économies à gauche à droite. Donc, vous voyez, avec ça, c'est cette approche qui est beaucoup plus constructive. Comme on va encore le faire à travers cette commission permanente. Nous serons à l'Ecofin, nous allons voir qu'est-ce que le Parlement a voté comme budget alloué à l'enseignement. Et avec ces budgets-là, on va faire le calcul avec les enseignants pour dire s'il doit y avoir une augmentation salariale, ça représente combien? Si ça représente 10 francs et que l'enseignant pense que 10 francs est peu, c'est à nous ensemble de voir l'autorité budgétaire. Et l'autorité budgétaire va nous dire, monsieur, madame, nous pensons, vu les contraintes, pour le moment, accepter et nous allons voir comment progressivement on va ajouter. C'est cette démarche que nous voulons républicaine et transparente. Et ça a déjà commencé. Et c'est puisque ça a commencé que nous interpellons nos amis syndicalistes qui tiennent encore un discours que je trouve un peu propagandiste et peu réaliste, de dire aux enseignants, nous sommes dans la démarche d'une approche constructive avec le gouvernement pour trouver des solutions. Et comme nous avons enclenché ce processus, il n'y a plus raison de rester à la maison parce qu'il s'agit de l'éducation des enfants. Parce que les retombées de ce processus, nous l'aurons quand le budget sera voté. Devrions-nous attendre que le budget soit voté et actionné en 2025 pour laisser les enfants à la maison alors qu'il y a tout un processus où nous sommes impliqués vers la recherche des solutions? C'est là où on se met devant la responsabilité des uns des autres. Et ici, le bien fondamental, c'est l'enfant. Et j'interpelle M. Jean Bosco parce que il ne propose pas suffisamment des solutions constructives de revenir à la table. On n'a jamais fermé la porte à aucun syndicat. Et il le sait, moi je suis en contact avec lui, on n'a jamais fermé la porte à aucun syndicat. Mais les syndicats sont approuvés par la fonction publique. Nous travaillons avec les syndicats qui sont reconnus par la fonction publique. Sinecat, pas plus qu'il y a cinq minutes, je venais de m'entretenir avec le président du Sinecat, M. Malassi. Vous voyez? Donc maintenant, nous sommes en face de M. Pouna, qui est aussi du Sinecat, et qui est peut-être secrétaire, et son président Malassi, qui a levé la grève, ou qui est en train, dans le processus de dialogue, nous devons nous assurer que les deux trouvent une voie commune pour venir justement avec les revendications auprès du gouvernement. C'est le travail que nous faisons. Nous n'avons aucune vocation d'exclure personne, parce que même la personne la moins négligée peut toujours donner un avis qui va porter un plus dans la transformation que nous cherchons. Donc c'est une nouvelle équipe qui est mise en place. Nous venons à peine d'arriver. Nous sommes en train de faire l'état des lieux et nous rassurons la population que nous sommes avec les enseignants. Nous sommes pour les biens d'éducation parce que nous comprenons la mission reçue du chef de l'État, c'est d'investir dans le capital humain et nous allons pas nous aménager nos efforts pour y arriver.
Bien, merci Monsieur Godefroy Talaboulou, conseiller en genre, inclusion et nouvelle citoyenneté au ministère de l'EPST. Bonne journée et à la prochaine.
Merci, bonne journée à tous les auditeurs aussi.
Est-ce aimer ou être aimé? Bien que l'amour soit le symbole d'un sentiment partagé, être aimé n'est jamais le signe d'un bonheur parfait.
Vous écoutez la radio Capi, il est 11h à Kinshasa.